Et nous continuons nos lectures dans l'évangile de Marc. Alors la lecture est inscrite sur, brièvement aujourd'hui, 2.13, oui, 2.18 on va faire, parce que, non, 2.13, c'est bien, à 3.6. Alors les versets 13 à 17, on les avait vus la fois passée. Mais comme ça fait partie, je crois, et vous allez le voir aussi, d'un ensemble, c'est bien, on ne va pas commenter les versets 13 à 18, c'est sûr. La prédication de la fois passée, c'est, vous pouvez regarder sur le site de l'Église. Mais on va quand même le lire. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, il les enseignait, et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, des douaniers. Il lui dit, « Suis-moi !» Lévi se leva, le suivit. Jésus était à table dans la maison de Lévi. Beaucoup de péagers, de publicains, de pêcheurs, de gens de mauvaise vie avaient pris place avec lui, avec ses disciples, car là ils étaient nombreux et ils le suivaient. Et les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers, les pêcheurs notoires, dire à ses disciples, mais pourquoi mange-t-il avec les péagers, les pêcheurs ? Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et ceux des pharisiens jeûnent ? Tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieil habit, autrement le morceau neuf emporterait le tout et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus tout ensemble. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva le jour du sabbat que Jésus traversa les champs de blé, ses disciples chemin faisant se mirent à arracher des épis, et les pharisiens lui dirent, « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis de faire un jour de sabbat ?» Et Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il était dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar, mangea des pains de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à des gens, à ses gens ?» Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors il entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait, tous les gens observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien, de faire du mal, de sauver une personne, de la tuer ?» Ils gardaient le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main devient saine. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de faire périr Jésus. Seigneur, ouvre pour nous les pages de ton saint livre. Amen. Alors Jésus aperçut Lévi, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, le futur Matthieu, qui est appelé ainsi dans les autres évangiles, Lévi, Matthieu, ancien nom, nouveau nom. Et son regard pur se porte donc sur ce publicain, sur ce péager, et Jésus, on va dire, se spécialise dans le choix des candidats improbables. Il a déjà choisi Pierre et d'autres. Et là, il choisit Lévi. Un appel simple, on l'avait vu. Pas de promesse. L'appel est fondé uniquement sur l'attrait de la personne de Jésus. Suis-moi. Viens me suivre pour moi. Et ce choix rayonne ensuite sur l'entourage du nouveau disciple. Deux groupes se forment, on en avait parlé, les pêcheurs, les gens de mauvaise vie, qui étaient mal vus des pharisiens. Eux, ils sortent purifiés. Ils passent par une repentance, la conversion, ils sortent purifiés. Et puis, les pharisiens qui se proclament justes, qui se croient justes, qui se disent justes, eux sortent de l'événement endurci. Et on va encore voir ici, à la fin de notre passage, on a vu qu'ils ont le cœur dur. Au chapitre 3, verset 5, on y reviendra. L'endurcissement de leur cœur, qui va encore aller de l'avant après tous les épisodes de ce passage. Alors, dans ce passage que nous avons lu aujourd'hui, enfin, de ce passage que nous allons méditer aujourd'hui, il y a, on va dire, c'est la religion humaine, avec qu'on croit bien maîtriser. C'est cette religion humaine qui va s'acharner contre Jésus. C'est la réaction ici, après l'appel de Matthieu, après tout ce qui s'est passé dans sa maison, c'est la réaction de la religion humaine qui s'acharne contre Jésus. Et donc, les trois épisodes qu'on a lus peuvent bien se mettre ensemble. On va parler du jeûne, un peu du sabbat et de la guérison de cet homme. Ces trois épisodes décrivent cette opposition entre, on va dire, la loi et la grâce, entre le cœur et la pierre, entre l'esprit et la nature pécheresse de l'homme. Et ces trois épisodes, donc du jeûne, du sabbat, de l'homme à la main sèche, touchent aux conceptions humaines qu'on avait attachées à la religion. La loi n'est pas ici l'expression de la volonté, en tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu que Jésus va contredire. La volonté de Dieu ne saurait changer. Mais ici, le terme loi résume les coutumes que les hommes avaient prises et prennent si facilement pour faire la volonté de Dieu et qu'ils érigent au même niveau que la parole de Dieu. Jésus rompt ici avec la doctrine. La doctrine des pharisiens, la doctrine, le rituel du jeûne, le rituel du sabbat, et avec toute la théologie des pharisiens et des scribes qui étaient derrière. Il bat en brèche leur type de piété, leur conception du salut, basée sur leurs œuvres et non sur la grâce. Et il va montrer tout ça par un miracle de rupture, ce miracle de l'homme à la main sèche. Et donc tout va bien ensemble. Donc Jésus revient pleinement à la parole de Dieu en mettant en valeur la grâce de Dieu. Alors le jeûne, c'est, on pourrait dire, le jeûne rituel dont il est parlé ici. Le jeûne comme pratique rituelle, régulière, formaliste donc, et fixe. Ça faisait déjà partie de l'ancienne dispensation. Mais il est dépassé maintenant par la présence du Messie. Le Messie est là. Et tout ce qui faisait partie de cette ancienne dispensation, la tendance va maintenant disparaître. C'est ce que Jésus dit. Depuis la venue de Jésus, bien sûr, les chrétiens peuvent jeûner, mais le jeûne est tout différent. Il est intérieur, il est occasionnel, il est circonstanciel. Et dans l'évangile, Jésus présente le jeûne comme quelque chose de discret. Tout le contraire. Des pratiques dites mises en avant jusqu'à là. Quelque chose de discret dans le sens où le jeûne chrétien ne vise pas à impressionner personne. Il est spirituel, il est sincère, il vient du cœur. Il est un cœur transformé par la grâce et la parole de Dieu. Il est recherche de Dieu. Et il ne vise pas donc à impressionner personne, ni soi-même, ni les autres chrétiens, ni les autres églises. Mon église jeûne plus que ton église, ni Dieu, bien sûr. Le jeûne a perdu sa place prépondérante. Ce n'est pas parce que les Juifs jeûnent les lundis et jeudis que les chrétiens doivent jeûner les mercredis et vendredis. Et pourtant, ça s'est fait dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas ça que dit Jésus. Le jeûne n'est jamais un indice de la spiritualité de quelqu'un. Et vouloir le réintroduire, combien d'autres pratiques de l'Ancien Testament ? Si on introduit ça, il faut introduire la circoncision, il faut introduire les différences entre les viandes, etc. Et à vouloir introduire ça sans beaucoup de réflexion, sans réfléchir au sens des choses, dans l'Église, donc réintroduire tout ça dans l'Église de Dieu, c'est prendre le vin nouveau et le verser dans de vieilles outres, les vieilles outres d'un système dépassé, d'un système vraiment auquel les scribes ont ajouté encore toutes sortes de choses, et un système délaissé par Dieu. Et donc le nouveau message de l'Évangile est accompagné de vie nouvelle et de nouvelles structures. Les expressions de la spiritualité se renouvellent avec lui, changent et varient, et ne peuvent devenir imposables et normatives désormais. Ce qui est normatif, c'est la présence de l'époux. Voilà ce qu'il faut retenir, déjà. Ce qui est normatif, c'est la présence de l'époux. Et Jésus dit, les amis de l'époux, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. Donc, l'époux, nous sommes les amis de l'époux. On y reviendra tout à l'heure. L'époux leur sera enlevé, dit Jésus. Donc, le terme est rare dans la Bible. Être enlevé. On le retrouve sous la plume d'Ésaïe, Ésaïe 53, 8. Il a été enlevé, retranché de la terre. Il parle du Messie qui donnait sa vie pour nous, Ésaïe 53. Et il est mort comme une brebis en donnant sa vie pour nous. Et Jésus donc signale donc que c'est violemment que l'époux, qu'il est lui-même, l'époux sera enlevé. Il est clair qu'il annonce sa mort sur la croix, son départ, sa mort sur la croix. La réponse est donc pleine la réponse de Jésus est pleine de sens messianique, Il annonce qu'il est le Messie et il annonce qu'il est Dieu, parce que quand il dit qu'il est l'époux, il prend la place de Dieu. Quand on connaît bien l'Ancien Testament, on comprend que quand Jésus parle de l'époux qui est là, il convient de comprendre que l'époux c'est lui et que il fait référence au Dieu de l'Ancien Testament. Il s'arroge un titre étonnant. Puisqu'il faut se souvenir que l'époux est un titre divin que nous trouvons dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Ésaïe 53 est par exemple Osée, livre d'Osée. Et dans l'Ancien Testament, l'alliance entre Dieu et les hommes est comparée à une union conjugale entre un homme et une femme, à des épousailles. Dieu est l'époux d'Israël. Il veut vivre une relation étroite avec son peuple d'Israël. Une relation fidèle, une relation pour toujours. Et les infidélités du peuple, dans le livre d'Osée, par exemple, à l'égard de Dieu, sont appelées adultères. Et dans plusieurs autres passages, Ésaïe 54, on l'a dit, Ésaïe 62. Et à la fin des temps, dans les temps de la fin, Dieu organise des noces définitives, disent les prophètes. Allez, Osée 2, 18, 22. En ce jour-là, oracle du Seigneur l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, dit Dieu à son peuple. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance. Je te fiancerai avec moi avec justice et droit, loyauté, compassion. Je te fiancerai avec moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Donc Dieu, les prophètes annoncent un temps où le peuple reconnaîtra en Dieu, son Dieu, fera une alliance profonde d'amour et donc une alliance nouvelle et marquée par la durée, marquée par la profondeur de l'amour, marquée par la loyauté, la compassion, la justice, le droit. Tout ça s'est accompli avec la venue de Jésus. Les disciples sont donc les premiers invités à ces noces qui sont inaugurées par la présence de Jésus qui est là. L'époux est là. Le processus est en marche. Le temps des noces a commencé, Il est temps de se réjouir donc, et non de jeûner. Et dans l'Ancien Testament, donc dans la première dispensation, le jeûne avait cette valeur surtout pénitentielle. Et maintenant, le Messie est là, il ouvre les festivités, c'est la joie qui doit se manifester. Les pratiques exigeantes, pour ne pas dire pénitentielles, comme j'ai dit, comme le jeûne, qui était là pour préparer la venue du règne de Dieu, ces pratiques inutiles sont inutiles. L'époux est là. L'époux est là. Et donc, une question sérieuse se pose. Faut-il risquer de perdre le neuf et la fête pour garder l'usé qui est rassurant ? Vous savez, on n'aime pas les changements. On préfère garder l'usé rassurant, moi le premier, je préfère garder mes vieilles chaussettes, hein, que d'en changer. C'est un secret que je partage avec tous les membres masculins de cet auditoire, je crois. Hein. Mais les dames ont d'autres choses qu'elles préfèrent garder. On a tous des « on préfère garder l'usé » parce que ça nous rassure, on connaît. Hein. Alors, faut-il risquer de perdre le neuf et la fête pour garder l'usé rassurant ? La réponse est dans le propos de Jésus. La déchirure est pire. Vous ne garderez rien. Vous ne garderez rien. La déchirure serait pire. Les outres et le vin seraient perdus. Hein. Jésus l'avait déjà dit en d'autres termes, qui n'ont pas été bien compris peut-être au début de son ministère. Convertissez-vous. Changez de vie. Hein, changez de comportement. Donc c'est un appel à la conversion, à la nouvelle naissance. Hein. Donc il faut comprendre que ce que signifie une nouvelle naissance, conversion, et ne pas penser qu'il s'agit simplement de quelques petites transformations de surface, de quelques changements de comportement, de progrès arrachés à de mauvaises habitudes. Non, il faut se débarrasser de ces vieux vêtements rafistolés auxquels on tient. Il faut s'en débarrasser. Il faut jeter les vieilles outres. C'est bien ce que déclare Jésus avec une audace incroyable. Puisqu'il dit que le vin nouveau ne peut pas être contenu, hein, ne peut être contenu que, plutôt que dans des outres qualitativement neuves. Jésus milite pour le neuf. Il dit clairement que son ministère, son discours, ses gestes, ses paroles ne peuvent être enfermés dans l'ancien système légaliste et pharisaïque. Hein. Basé sur les œuvres, pas plus que dans un judaïsme légèrement toiletté, hein, même par Jean-Baptiste. Hein. Tout ça, c'est encore l'ancien système. Faire entrer Jésus dans des pratiques ancestrales, restaurées, hein, ou dans la théologie traditionnelle juive des pharisiens, c'est déchirer le vêtement, hein, c'est faire éclater les autres. Et tous ceux qui veulent revenir à ces pratiques, eh bien, voilà ce que dit Jésus. C'est toujours un message clairement d'actualité. Mais je voudrais ajouter deux petites notes plus proches de nous, peut-être, plus positives. La première, c'est que Jésus est présent avec les disciples. C'est le temps de la joie. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est positif. Je suis présent avec vous. C'est le temps de la joie. Réjouissez-vous. Ça sera suivi, c'est vrai, d'un temps de douleur. Je serai crucifié bientôt. Je vais mourir, je vous serai enlevé. Ça sera le temps des pleurs et des larmes. D'accord. Mais ensuite, nous savons que ce n'est pas tout. Jésus va ressusciter, il va monter au ciel, comme on l'a dit. Et depuis la Pentecôte, par son esprit à l'intérieur de nous, il est vivant, il est toujours avec nous. Nous sommes donc aujourd'hui dans le temps de sa présence et dans le temps de sa joie. C'est vrai que c'est mal compris des fois. C'est comme ça que je crois qu'il faut le comprendre. Donc la vie chrétienne, c'est vivre avec Jésus. C'est déjà goûter à la joie de la présence de Jésus. Jésus est avec moi, Jésus est en moi par son Esprit Saint. Ça change tout notre quotidien, ça change toute notre façon d'envisager tout notre salut, notre sanctification, toute notre vie impersonnelle et d'église. Et puis deuxième petite note, nous relevons la progression dans la profondeur de l'accueil par Jésus des hommes pécheurs. Au passage précédent, on avait vu que Jésus avait annoncé aux paralytiques le pardon des péchés, début du chapitre 2. D'accord. Mais celui-ci avait, le paralytique avait ensuite dû se retirer. Lève-toi, prends ton lit, vite, pars. C'est déjà ça. Mais degré supérieur, lors du repas chez Lévi, chez Matthieu, Jésus avait montré sa volonté de côtoyer des gens qui n'étaient pas acceptés par les pharisiens. Et maintenant, c'est le degré supérieur. Jésus appelle ses disciples les amis de l'époux. Donc ces gens sont inclus dans le cercle de Jésus avec Lévi, un ancien péager, et les autres disciples qui sont déjà là. Donc les chrétiens sont des pécheurs repentants en voie de sanctification qui sont les amis de Jésus aujourd'hui. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, dit Jésus en Jean 16, je crois. Et donc nous sommes les amis de l'époux. Nous sommes des créatures devant un créateur. On a bien fait de le chanter dans les premiers chants. Nous sommes des pécheurs repentants en voie de sanctification devant le Dieu saint. Mais nous sommes aussi des enfants adoptés de Dieu, des amis de notre Sauveur. Et donc nous avons une proximité. Nous sommes la famille, des membres de la famille de Dieu, plus que ça, des amis de l'époux. Et donc c'est cette dimension que nous ne devons jamais oublier de la vie chrétienne. Puis le sabbat, je serai plus bref, on a prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps. Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est le principe fondamental que Jésus énonce. Et en disant ça, il se proclame Dieu. Qui peut dire ça avec cette autorité-là? Et c'est le principe fondamental pour la bonne compréhension de ce commandement de Dieu, bien sûr. Dieu a institué le sabbat pour qu'il, le jour du repos, pour qu'il soit une bénédiction pour l'homme. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est au service de l'homme. Et le sabbat, le repos devait lui procurer le repos physique dont l'homme avait besoin, et aussi le repos spirituel, le temps de prendre soin de son âme avec d'autres croyants. Les pharisiens avaient oublié cela. Ils gardaient la forme, ils avaient oublié le fond. Il fallait que le repos soit observé coûte que coûte, scrupuleusement, de façon servile, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvait l'homme ou la femme. Et Jésus enseigne par l'exemple que lorsqu'il y a détresse et urgence, lorsqu'il s'agit de secourir, de faire du bien, on a le droit d'oublier de façon stricte ce repos, et au moins exceptionnellement, sans que pour autant on le transgresse, parce qu'il a été fait pour le bien de l'homme. Et donc le repos perd tout son caractère de jour sacré unique dans le Nouveau Testament, pour aller plus loin. Non pas que tous les jours sont devenus des jours profanes pour le chrétien, des jours ouvrables, au bon plaisir de l'homme qui se proclame le maître du profane. C'est plutôt que le repos, le jour du repos, le sabbat, le repos s'étend à tous les jours de la semaine dans l'esprit du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que Jésus est l'accomplissement du repos promis. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas Moïse, comme dit l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas Josué qui a apporté le repos. Ils ne l'ont pas apporté. Ça ne sert à rien de regarder de ce côté-là. Mais c'est Jésus qui a apporté le repos, dont le sabbat était la prophétie, on va dire. Et donc, Jésus est l'accomplissement du repos promis. Et maintenant qu'il est là, et donc, parce que Jésus est l'accomplissement du repos promis, et parce qu'il est là maintenant pour être honoré et servi tous les jours de la semaine. Voilà le sens. S'il est le repos promis, eh bien Jésus veut être servi maintenant tous les jours de la semaine. Non pas un jour sur sept, mais sept jours sur sept. Donc le repos n'est pas rabaissé au niveau d'un simple jour ouvrable, comme tous les autres de la semaine, mais tous les jours de la semaine sont élevés au niveau du repos, du sabbat. Christ est le maître du sabbat, et donc, puisque toute la vie devient sabbat, il est le maître de toute la vie chrétienne. Voilà la nouvelle dimension de ce repos dans le Nouveau Testament. Jésus est mon repos, et toute ma vie lui appartient. Et je veux le glorifier tous les jours de la semaine. Voilà. Le Christ est le maître de mon travail et de mon repos. Voilà ce qui est fondamental. Tous les jours sont au Seigneur. Voilà ce que le chrétien peut dire. Loin de nous de vouloir exproprier le Seigneur du temps dont nous sommes que les gérants. Non, nous voulons gérer tout le temps pour Dieu. Loin de nous considérer comme les maîtres du temps. Non, c'est Jésus qui est le Seigneur du temps. Et donc cette même logique peut s'appliquer à notre rapport entre le dimanche et les jours de la semaine, bien sûr. Donc au lieu de faire du premier jour de la semaine un jour ordinaire, nous ferons de ce jour et des autres jours de la semaine des jours extraordinaires. Nous ne deviendrons jamais les maîtres du repos, ni d'aucun jour de la semaine. Aucun jour ne peut devenir mon domaine privé, et toute occupation relève de l'autorité du maître. Donc le chrétien s'écarte de deux dangers à la fois. Souvent on voit un danger et on ne voit pas l'autre. Et donc il y a un roi dans l'histoire de France, il y a un épisode où le fils d'un roi dit à son père en train de batailler, « Sire, gardez-vous à droite, sire, gardez-vous à gauche. » Eh bien, c'est un peu ça, le chrétien, de se garder souvent de deux dangers. Il en oublie un, souvent. Alors, on doit se garder de deux dangers. Celui du légalisme des pharisiens, on en a parlé, j'en reviens. Mais aussi celui de l'hédonisme de notre époque, c'est-à-dire, nous vivons dans une époque qui court après le plaisir immédiat. Tiens, j'ai envie d'acheter une paire de savates. Oh, ben tant pis, c'est dimanche, peu importe. Je loupe le culte, je fais mes courses. Parce qu'une envie comme ça, voilà, nous a pris à la gorge. C'est le plaisir immédiat à accomplir tout de suite. L'hédonisme, on va dire, pour faire bref, bien sûr. Donc il faut se garder des deux dangers. Et Jésus dirait d'autres choses pour compléter ce qu'il a dit ici, certainement. Le chrétien choisit l'obéissance. Entre ces deux dangers, le chrétien choisit l'obéissance active et joyeuse à Jésus. Une obéissance qui vient du cœur. Et donc, pour celui dont Jésus est le maître, la question n'est plus « est-ce permis ?» mais « est-ce que cela exprime mon obéissance à Christ ? » Est-ce que cela exprime mon amour pour lui et pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ? Est-ce que c'est utile aux autres au nom du Christ ? Voilà la bonne question qu'on a se poser. Sans cela, nous risquons tous, à notre tour, de finir endurcis comme les pharisiens, pétrifié, comme les pharisiens. Et j'arrive à l'homme à la main sèche brièvement. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait la main sèche. Alors, Luc, qui est médecin, précise qu'il s'agissait de la main droite. Alors, comme à l'exception de quelques personnes très, 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 très bien, la majorité des gens utilisent la main droite, évidemment. Donc, Luc dit que c'est la main droite, c'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire, parce que c'est souvent avec la main droite qu'on agit. Et donc, est-ce que c'était une atrophie musculaire, une paralysie, une gangrène plutôt, quelque autre maladie ? Le texte ne le dit pas. Mais sa main était perdue, sa main avec laquelle il était censé tout faire, sa main était perdue, irrécupérable. C'est ça. Certes, Jésus aurait pu guérir cet homme un autre jour. Mais il aurait laissé et confirmé les pharisiens dans leur erreur concernant ce commandement. Or, il veut démasquer, il veut les enseigner, il veut démasquer leur fausse piété, leur mécompréhension totale de la volonté du Seigneur et du chemin du salut qui passe par lui. Donc Jésus aussi est en colère, attristé, indigné par leur endurcissement. Une colère sainte, une colère divine, une sainte réaction du Christ devant l'endurcissement de ses compatriotes. Colère de voir les hommes de Dieu qui font, bien sûr, on peut être en colère contre beaucoup de choses, mais la colère de Jésus est encore plus grande parce que ce sont des hommes de Dieu qui sont censés diriger les autres. Et donc cette colère de voir des hommes de Dieu qui font profession d'aimer, de servir le Seigneur, en arriver au nom de Dieu à nier l'évidence, à savoir que le Seigneur, par sa parole, veut le bien de l'homme. Donc il demande aux malades de tendre la main pour que tous la voient. Voit la chose, elle est là, desséchée, inerte, perdue, morte. Et voilà que soudain, elle est totalement guérie. Alors, j'aime à dire, enfin, je crois que c'est une bonne chose de dire que même ce miracle devant ces hommes endurcis était aussi une porte de salut. Parce que cette main sèche, cette main dure, Jésus lui redonne la vie. Jésus, aujourd'hui encore, tend la main à tous ceux qui ont des cœurs endurcis. Jésus peut changer les cœurs endurcis. Et ce miracle fait devant ces pharisiens endurcis était encore un appel au salut. Alors, deux conclusions. La première, c'est sur la grâce, bien sûr. Le seul vrai message du salut est l'évangile qui proclame que le pardon des péchés, que la réconciliation avec Dieu, la communion retrouvée avec Dieu, s'obtient uniquement par la grâce de Dieu. Tout le reste n'est qu'un faux évangile qui ne conduit pas au ciel. Il ne s'agit pas de faire des mélanges, des compromis avec d'autres religions. Il s'agit de revenir à l'évangile. Et puis, la vraie vie juste. Autre point, la conformité externe à la parole de Dieu ne suffit pas pour sauver ni pour sanctifier quelqu'un. Et des fois, on croit ça. On va faire comme les autres et ça va nous transformer de l'intérieur. Non. On va jeûner comme les autres, ça va nous transformer de l'intérieur. Non. On va, plein de choses. On va venir au culte, on va donner de l'argent, on va... Non, si, la conformité externe à la parole de Dieu ne suffit pas pour sauver et ni pour changer, sanctifier quelqu'un, faire progresser la sainteté. La vraie vie juste qui progresse vient de l'intérieur. Et c'est ce qu'il faut du neuf. Et il faut recentrer toujours sa vie sur le Seigneur, sur la communion avec lui, sur le changement que l'Esprit Saint continue à opérer par sa parole, par la parole de Dieu dans nos vies. C'est de là que peut venir la vraie sanctification. Et puis, je termine en centrant sur Jésus. Qui est cet homme? Dit l'évangile de Marc. Et Marc a répondu progressivement. Il a déjà dit au chapitre 2 qu'il est le Fils de l'homme, qui a sur terre... c'est un titre divin qui a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. On a vu la semaine passée qu'il est le médecin qui veut guérir ceux qui se reconnaissent malades. Bien. Et dans le texte d'aujourd'hui, il est dit plusieurs choses. Il est dit qu'il est l'époux par qui les noces de Dieu sont inaugurées. L'alliance nouvelle. Il est celui qui va leur être enlevé, qui va mourir pour eux. Il est le maître du sabbat dans le sens... Il est le maître de ma vie. Il est le saint, le juste, qui est indigné contre le péché. Il veut guérir nos cœurs endurcis. Voilà plein de choses qui sont dites ici. Et puis pour ajouter, c'est autour de Jésus-Christ et de sa parole que nous apprenons la liberté, la vraie liberté. C'est lui qui nous rend libres, comme dit Jean en Jean 8. C'est lui qui nous libère du péché, de la mort, mais aussi de toute fausse interprétation de la parole de Dieu. Il nous apprend que la parole de Dieu n'est pas là pour nous, pour mépriser, pour rejeter quelconque, pour abandonner, je veux dire, mais elle est là, la parole de Dieu, c'est ce que nous devons aussi vivre. Elle est là pour aimer davantage. Elle est là pour secourir davantage, pour nous ouvrir davantage aux autres. Elle est là pour faire du bien à nous, et pour que nous soyons une fassion du bien aux autres. Amen.